Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Il y a près de 80 ans, le 8 novembre 1942, les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche, un véritable pari militaire et logistique qui va renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. À Alger, elle doit son succès à l'action méconnue mais décisive de 400 jeunes résistants, juifs pour la plupart, victimes d'un régime de Vichy plus radical ici qu'en métropole. C'est ce que raconte le documentaire « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » de Stéphanie Monsenego et Bernard Georges, que diffuse la chaîne publique France 5 tout à l'heure à 22h40, heure de Paris. Documents d'archives, témoignages et souvenirs familiaux constituent ce film qui nous plonge au cœur de cette aventure épique, combinant système D et héroïsme pour libérer l'Algérie et pour les Juifs recouvrer leur citoyenneté française. Une émission réalisée par Mathias Golchani que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio.
Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. L'opération Torche, véritable pari militaire et logistique, va renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. À Alger, elle doit son succès à l'action méconnue mais décisive de 400 jeunes résistants, juifs pour la plupart, victimes d'un régime de Vichy plus radical ici qu'en métropole.
Bonjour Stéphanie Monsenego.
Bonjour Éric Bataillon.
Autrice de ce documentaire « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée ». Et bonjour Bernard Georges.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes le réalisateur de ce film. Stéphanie Monsenego, comment avez-vous eu l'idée de ce film ?
Oh, c'est compliqué. Deux choses. D'abord, j'ai découvert très tardivement le sort des Juifs d'Algérie sous Pétain. Mon père étant juif d'Algérie, ma grand-mère aussi et toute ma famille paternelle. Et c'est donc simplement en lisant Benjamin Stora, quand j'avais au moins 40 ans, que j'ai découvert qu'ils avaient été déchus de leur citoyenneté. Et puis ensuite, l'autre déclencheur, ça a été le livre de Bernard Attali sur l'année 1943 et tout l'enjeu de, justement du rétablissement des Juifs dans leurs droits de citoyens en balance avec ceux des musulmans qui, eux, n'y avaient pas accès.
Et à cette époque, évidemment, cette opération Torche sur laquelle nous reviendrons pendant l'émission. Bernard Georges, vous, quel est votre lien avec l'Algérie dans la mesure, je crois, où vous avez déjà commis des films sur ce thème ?
J'ai déjà, effectivement, réalisé plusieurs documentaires autour de la question. D'abord, autour de la question de la guerre d'Algérie, puisque mon dernier film s'appelait « Un si long silence » et racontait l'histoire des portraits de jeunes appelés dans cette guerre d'Algérie qui ne voulait pas dire son nom, qui avaient fait leur service militaire, soi-disant, une espèce de service d'ordre. Voilà, donc ça, c'était le dernier film que j'ai fait. Et puis, précédemment, j'ai commis un autre film avec Jean-Noël Jeannet qui s'appelait « Maghreb 39-45, un destin qui bascule » et qui racontait comment les nationalismes au Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, avait pris aussi de l'essor au moment du débarquement Torche. Donc il y a une espèce de boucle qui se boucle avec ce film-là.
Alors Bernard Georges, votre documentaire utilise beaucoup d'images d'archives. D'où proviennent-elles en général ?
Alors c'est très compliqué pour cette période de trouver des images d'archives, et notamment en ce qui concerne les témoins, puisque malheureusement ils sont tous disparus. Depuis, puisque à l'époque, ils ont une vingtaine d'années, en 40, et donc maintenant, ils nous ont quittés, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de retrouver, dans des interviews qui avaient été faites avec tous les acteurs, en fait, à la fin des années 90, de retrouver des rushs qui m'ont permis de les remettre en scène de façon à écouter leurs témoignages sur la manière dont ils avaient procédé à ce putsch d'Alger.
Justement, on a parfois l'impression que le texte récité par Agnès Rugalski décrit précisément les images que l'on voit en même temps à l'écran. Et il s'agit d'images vraies, de reconstitutions.
Alors, la vraie difficulté quand il s'agit de résistance en général ou d'action secrète, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc la vraie difficulté est de détourner certaines images pour donner au spectateur l'illusion qu'il assiste à la scène. C'est un peu le problème qu'on a dans ces films d'archives. Et donc là, on a retrouvé un film de Jean Dréville de 1949 qui s'appelle Le Grand Rendez-vous, qui raconte exactement cette opération, sauf qu'à l'époque, il n'était pas question des Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, le réalisateur a montré tous ces jeunes gens qui avaient aidé au débarquement de Torche, mais ils étaient tous bons français, bien français, et pas du tout juifs.
Et vous utilisez aussi des images, des dessins. Pourquoi ?
Alors en fait, c'est parce que Stéphanie, à travers les témoignages de sa famille, on a essayé de reconstituer un personnage, en fait. Une espèce de personnage fictif, mais qu'on a conçu comme s'il avait pu exister, en fait, à travers les souvenirs de personnages de sa famille. Et donc, du coup, pour lui donner une identité, on a choisi de faire des dessins pour lui donner, voilà, une forme un peu fictive, bah, pour pas tromper le spectateur sur le fait que c'est un personnage qu'on a inventé d'une certaine manière.
Stéphanie Monsenego, il y a une longue partie pour expliquer la situation des Juifs en Algérie en 1940. Citoyens de seconde zone dans l'Empire ottoman, ils deviennent des indigènes après la colonisation française en 1930, au même titre d'ailleurs que les musulmans. Puis il y a le décret Crémieux en 1970 qui accorde la citoyenneté française aux Israélites indigènes d'Algérie, c'est une citation. Un décret qui est très mal reçu et très mal accepté par les colons européens de toutes origines. Cette mise en perspective explique-t-elle la suite des événements pour les Juifs d'Algérie ?
Je pense que le décret Crémieux a été une sorte de bascule. Pour la France, pour le colonisateur français, l'idée c'était de renforcer ses rangs à tout prix. La population juive qui n'était pas si nombreuse, qui était d'environ 110 000 personnes à ce moment-là, constituait des bataillons, entre guillemets, de gens très désireux de s'assimiler et très désireux, du coup, d'adopter les coutumes, les us et coutumes françaises, etc. Y compris pour ce qui est de la religion, c'est-à-dire que très vite, les Juifs d'Algérie devenus citoyens français se sont vus formés par des rabbins venus d'Alsace pour qu'ils soient véritablement bien dans la ligne, si je puis dire. Donc l'enjeu pour la France, c'était ça. La situation de cette population qui est prise en étau. En étau entre des Européens dominants qui ont tous les pouvoirs et des musulmans qui n'en ont aucun. Et donc, finalement, les Juifs sont à la fois les supplétifs politiques de la SFIO parce qu'ils votent à gauche et donc sont détestés de ce point de vue-là par les grands colons européens qui, eux, évidemment, sont très puissants au Parlement et sont contre ce vote. Et voilà.
Pour revenir sur cette période hantée Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre de descriptions de personnages qui jouent un rôle important pour la communauté juive, mais souvent à contrario. Par exemple, il y a l'abbé Lambert, pour illustrer le fait que les Juifs d'Algérie sont pris justement en tenaille entre les Européens et les musulmans. Dites-nous un mot de cet abbé.
L'abbé Lambert, c'est un opportuniste dans toute sa splendeur. C'était assez intéressant aussi de faire le parallèle avec son mouvement politique qui s'appelait le Rassemblement National et l'actualité française d'aujourd'hui. C'est d'autant plus intéressant que c'était un homme de gauche initialement et qui, par opportunisme, s'est mis à virer à l'extrême droite et a choisi, parce que c'était le plus simple, comme bouc émissaire, les Juifs.
Alors, le 7 octobre 1940, Pétain annule le décret Crémieux. Que se passe-t-il à ce moment-là pour les Juifs d'Algérie ?
Une succession de lois de plus en plus liberticides et au-delà d'exactions, qui étaient plus dures que sur les Juifs de France, de nationalité française et citoyens français. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent. Les Juifs d'Algérie ont été déchus de leur citoyenneté. Donc, ils se sont retrouvés dans un statut qui, finalement, était inférieur quasiment en droit à celui des indigènes musulmans.
Oui, parce que, précisons-le, les Juifs d'Algérie sont déchus de leur citoyenneté, mais pas les Juifs de France, de la métropole.
Absolument. C'est ce qui a permis, selon certains, de les sauver, et ceux de métropole.
Et alors, que deviennent les Juifs d'Algérie ? Ils sont obligés de se cacher. Que se passe-t-il pour eux, précisément, matériellement ?
Matériellement, c'est une progression qui va d'abord, la déchéance de citoyenneté qui, symboliquement, est épouvantable pour eux. Parce que moi, j'ai été élevée dans pas du tout la religion. Mon père n'était pas religieux. Ces familles-là n'étaient pas spécialement religieuses. C'était la République. Et la République, c'était vraiment quelque chose. Et la République les trahissait. Donc ça a d'abord été une déchéance psychologique très difficile. Et puis progressivement, les lois d'exclusion de l'école, plus dures qu'en métropole là aussi, puisque dès l'école primaire, les enfants étaient soumis à des régimes de quotas qui faisaient que finalement, pratiquement tous les enfants juifs ont été exclus des écoles. Là où en France, métropole, c'était les universités seulement. Et puis ensuite, il y a eu la spoliation des biens. Et donc progressivement, l'arianisation de l'économie, donc exclusion de certaines professions et saisie de tous les biens intéressants, et notamment pour les rares d'entre eux qui avaient des fermes, ou pour le père de Benjamin Stora, un cinéma, réquisition.
Je voudrais ajouter quelque chose sur cette période-là, parce que dans l'armée française, en 40, il y a forcément beaucoup de Juifs algériens qui sont aussi mobilisés dans l'armée française, et au moment de la débâcle, on va les renvoyer chez eux, et pour la plupart, on va les mettre dans des camps. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, ces gars-là, ils risquent de pas être tout à fait comme il faut, donc on va les mettre dans des camps, ils vont être carrément dans des camps de concentration avec des républicains espagnols, avec tout ce qui gêne le pouvoir de Vichy. Et donc, c'est pire que ça, donc c'est des jeunes qui ont fait la guerre avec la France, qui sont allés sur le front, et qui sont, avec la débâcle, qui se retrouvent dans des camps. Donc en fait, il y a vraiment une politique d'élimination de ces personnalités.
Oui, justement, Bernard Georges, en 1942, les Juifs d'Algérie sont recensés, c'est pour cela, pour les mettre à l'écart, c'est cela ?
Ben, c'est évidemment pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans les documents d'ailleurs que on appose le tampon juif. Il y a toute la progression. On ne sait pas où ça sera allé finalement après 40. Si les Américains n'avaient pas débarqué, peut-être on ne sait pas s'ils n'auraient pas à leur tour été déportés dans des camps de concentration.
Stéphanie Monsénégo.
Bah pour moi, vous évoquiez l'abbé Lambert. Pour moi, l'Algérie des années 30, c'est une espèce de laboratoire de l'extrême droite et de l'antisémitisme français qu'on trouve encore aujourd'hui. Le recensement des Juifs en 40 en Algérie, c'est le début de la mise en œuvre d'un test de solution finale qui n'a pas eu lieu grâce à l'opération Torche et qui était, puisque c'était un laboratoire, éventuellement des prémices à ce qui pouvait se passer en France ultérieurement.
L'Algérie devient un Eldorado d'extrême droite pour les opportunistes de métropole. Comme l'abbé Lambert, un prêtre défroqué débarqué comme sourcier en 1930. Élu maire de Rouen, il se lance dans une croisade anti-juive sous la bannière de son parti, le Rassemblement National.
Stéphanie Monsénégo et Bernard Georges sont les invités d'Orient Hebdo ce dimanche pour leur documentaire « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » diffusé sur France 5 ce dimanche. Parlez-nous, Stéphanie Monsénégo, de la salle de sport Géogras.
Ah, ça c'est... En fait, ce qui était sympathique et ce qu'on a proposé à France 5 d'une manière un peu amusante, c'est de leur dire c'est une résistance couscous, c'est pas une résistance Vercors. Alors c'est un peu simpliste comme expression, mais en fait c'est une résistance faite que de ruses, d'astuces, de système D et beaucoup d'humour. Et donc, pour s'entraîner, un certain nombre de jeunes gens qui décidaient déjà, avant même d'avoir une idée de ce que pourrait être un débarquement, décidaient de se défendre sur place, certains se sont dit, on va faire une salle de gym, on va faire une salle de sport pour se préparer. Et pour avoir une bonne couverture, ils ont pris Géogras, qui était un champion de boxe militaire, pétainiste, tout propre sur lui, si je puis dire. Et la journée, cette salle était ouverte absolument à tout public et tous âges confondus. Et le soir, elle servait à des entraînements paramilitaires, le tout sous le portrait du maréchal Pétain qui les regardait.
Bernard Georges, donc le Maurice en question, dont vous avez donné des images, des dessins, ce Maurice fictif, lui s'entraînait dans cette salle.
Alors le Maurice fictif s'entraîne dans cette salle, il fait partie de ce contingent qui va être un contingent assez important parce qu'à l'arrivée, il va quand même y avoir 400 jeunes environ qui vont participer à cette prise d'Alger qui va aider donc au débarquement de Torche. Et sur les 400, il y a plus des deux tiers qui sont des Juifs. Et dans la salle Géogras, il y a un nombre assez conséquent de jeunes Juifs qui viennent s'entraîner. Donc on a pensé que Maurice était dans ce groupe-là. Voilà. Mais dans les témoins que nous avons dans le film, il y a Jacques Zermati, qui était un jeune officier de l'armée française, qui lui-même avait été démobilisé, qui n'avait pas été dans un camp parce qu'il était passé par Nice et qui était arrivé dans sa famille à Alger après, et qui va être un des leaders de ce groupe Géogras, et qu'on voit dont on a le témoignage dans le film, Jacques Zermati, qui raconte comment tout ça s'est passé.
Et tout ce beau monde participe à un réseau de résistance qui s'organise autour d'un certain José Aboulker, avec, affirme-t-il, ce José Aboulker dans un entretien, la complicité d'un militant d'extrême droite, c'est assez curieux, opposé à Pétain, Henri d'Astier de la Vigerie.
Henri d'Astier de la Vigerie. En fait, ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que c'est des gens qui sont opposés, et d'ailleurs Aboulker le dit, de la Vigerie avait dû crier déjà « sale juif » dans des manifestations dans les années 20 en France, mais en fait là, ils ont tous le même objectif. Ils ont tous le même objectif, c'est libérer la France. Ils sont contre Pétain, contre la collaboration. Et donc, finalement, ils trouvent un projet commun, c'est de résister contre ce gouvernement qui est aux ordres des Allemands. Voilà.
Alors justement, Stéphanie Monsénégo, le 21 octobre 1942, une petite délégation militaire anglaise et américaine débarque de nuit à Alger discrètement et rencontre le général Mast. Ils sont là pour cette opération. De quoi s'agit-il ?
Mais en fait, les Américains, sous la pression de Churchill, finissent par comprendre qu'il est urgent de délester le front russe de la pression qu'exerce Hitler et qu'il faut absolument ouvrir un second front. L'Afrique du Nord est l'endroit le plus approprié pour ouvrir un second front et donc détourner les forces allemandes de leur effort sur le front russe. La décision d'un débarquement est prise. Encore faut-il trouver des relais sur place, sachant que toute l'armée française d'Afrique est quand même basée en Algérie essentiellement et un peu au Maroc. Donc les résistants du putsch du 8 novembre se sont quand même alliés avec quelques militaires au gradé et les rencontrent ce soir-là à Sidi Ferouche pour mettre au point les derniers petits ajustements du débarquement. Et ça ne sera pas exactement comme ils l'ont dit.
Et en particulier pour les derniers ajustements, il y a un homme qui va jouer un rôle important, c'est le colonel Jousse. Pourquoi ?
Le colonel Joux, c'est ce qu'on appelle le commandant de la place. Donc, commandant de la place, ça veut dire qu'il est chargé des exercices de crise, et en cas de crise, c'est-à-dire en cas de débarquement ou d'invasion, si toutefois il y en avait une, chargé de réquisitionner des supplétifs de l'armée pour aider et sécuriser les points stratégiques de la ville. Et l'astuce formidable qu'ont inventé ou qu'ont trouvé ces gens-là, c'est de dire, mais on ne va pas envahir de force les points stratégiques de la ville parce qu'on est trop peu nombreux et pas armés. On va se servir et on va se faire passer pour des supplétifs de l'armée, dotés d'un ordre de mission du colonel Joux, qui nous donne le droit d'entrer dans le commissariat, dans la poste, dans tous les lieux, la préfecture, etc., tous les lieux de pouvoir de la ville. On va nous ouvrir tout naturellement puisqu'on aura cet ordre de mission. On aura les brassards volontaires de la place qui nous permettront de rentrer. Puis là, ça a été très facile. Sans tirer un seul coup de feu, ils les ont neutralisés et ils ont pris la ville.
Bernard Georges, vous montrez bien dans le documentaire que cette prise des principaux bâtiments d'Alger se fait finalement assez facilement. Le problème, c'est que cette opération qui réussit ne va rien changer pour les Juifs d'Algérie. Pourquoi ?
Alors c'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, tout va réussir. Bon, c'est un peu tendu quand même. Le film passe un peu là-dessus. Il y aura quand même quelques décès. Parce que les Américains ont mis beaucoup de temps à arriver. Ils devaient arriver à 3h du matin. Les jeunes avaient rempli tous leurs objectifs et ils attendaient les Américains. Et les Américains ne sont pas arrivés tout de suite. Ils ont eu des problèmes au débarquement. Et donc, ils ont dû garder plus longtemps que prévu les lieux stratégiques. Et donc, ils ont été sous le feu de troupes de Vichy qui ont fini quand même par se réveiller. Bon, enfin, les Américains arrivent, l'affaire est entendue, donc ils ont réussi. Et là, très bizarrement, mais il va se passer, c'est une espèce de cacophonie parce que qui doit diriger et donc du coup, Darlan est choisi comme le nouveau, enfin, le chef. Et donc les Américains s'appuient sur Darlan pour pas s'appuyer sur De Gaulle. Il voulait Giraud, mais Giraud a dit n'importe quoi. Il voulait absolument diriger le débarquement. Donc les Américains ont dit, bon, on va pas s'occuper de lui. Donc ils vont donner le pouvoir à Darlan.
Darlan qui, lui, est un vichiste.
Ah ben, Darlan qui est le responsable
de Vichy. Qui a été Premier ministre de Pétain et qui était le représentant de Vichy en Algérie.
Qui est même le chef des forces armées. Ah oui, tout à fait.
Et qui était là par pur hasard. C'est ça qui est amusant. C'est qu'une histoire de hasard. C'est-à-dire que normalement, les Américains avaient jeté leur dévolu sur Giraud. Giraud avait un peu pris la grosse tête. Il est resté à Gibraltar en disant, mais si vous me donnez pas le commandement des troupes interalliées, moi ça m'intéresse pas de venir. Et puis les Américains débarquent, donc Giraud toujours pas là, pas arrivé ou en retard, qui on trouve Darlan qui était là totalement par hasard au chevet de son fils poliomyélite qui était dans une crise de polio très grave au bord de la mort. Bon, il n'est pas décédé, mais c'était celui qu'ils ont trouvé, qu'ils ont mis. Il faut savoir que Roosevelt était très légitimiste d'une part et d'autre part qu'il détestait De Gaulle.
Mais il avait peur que ce soit un dictateur en fait. Il pensait que De Gaulle avait tout d'un dictateur et qu'il s'était imposé dans ce jeu mondial sans qu'on lui pose la question.
Bernard Georges, quel bilan peut-on tirer pour la résistance française de cette opération Torche ?
C'est assez remarquable de voir comment 400 jeunes gens, très mal armés, assez peu entraînés, ont été capables de mettre comme ça en une nuit la ville d'Alger et donc tous les commandants de place et toute l'armée d'Afrique finalement sous cloche et permettre en tout cas à Alger que le débarquement américain se passe comme dans du beurre. Évidemment, c'était plus compliqué au Maroc et en Tunisie où l'armée française a quand même résisté, où il y a eu des morts et où il a fallu attendre le 11 novembre que Darlan, sous pression des Américains, finisse par donner le cessez-le-feu pour que le débarquement soit réussi dans les deux pays.
Stéphanie Monsénégo, quel bilan les Juifs d'Algérie peuvent-ils tirer de cette opération Torche ?
C'est très compliqué. Les Juifs d'Algérie sont très divisés là-dessus, parce qu'il y a eu, tout de suite après, d'abord il y a eu cette espèce de deuxième trahison de la France, qui, y compris quand De Gaulle a pris le pouvoir à Alger, et donc a monté le Conseil national de la résistance à Alger, il a hésité, parce que finalement, redonner leur citoyenneté aux Juifs, c'était ouvrir la boîte de Pandore de celle des musulmans.
Mais il l'a fait néanmoins avec René Cassin.
Il l'a fait avec René Cassin, mais par la petite porte, en utilisant un subterfuge juridique. Donc on ne peut pas dire que ça a été un rétablissement en grande pompe.
Très franc.
Ni que la reconnaissance de leur acte de bravoure n'ait été véritablement à la hauteur de leur effort. Pour les Juifs d'Algérie, très vite aussi, ils ont été mélangés, confondus avec les pieds noirs. Donc en fait, cette histoire, elle a été écrasée par la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre d'indépendance algérienne. Or, les Juifs d'Algérie, ce n'est pas des pieds noirs.
Ce qui explique donc cet oubli que l'on a dans la mémoire, puisque c'est une histoire que l'on découvre au hasard de certains ouvrages, notamment celui de Benjamin Stora. Merci Stéphanie Monsénégo.
Merci Éric Bataillon.
Et merci Bernard Georges.
Merci Éric Bataillon.
Votre documentaire « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » est à voir sur France 5 dans la Case du siècle, ce 6 novembre à 22h40.